VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Le fils du président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang Nguema, accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable, doit être jugé à partir d'aujourd'hui à Paris, mais il a demandé un report. Orzouma Compaoré.
C'est le premier procès en France dans l'affaire des biens mal acquis qui porte sur les conditions d'acquisition de riches patrimoines en France par plusieurs dirigeants africains. Ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts, promu fin juin vice-président de Guinée équatoriale par son père, le président Obiang, Théodorin n'était pas personnellement présent à la barre. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Le procès devrait durer jusqu'au 12 janvier. Selon ses avocats, les délais sont beaucoup trop courts et non conformes à la loi. Ils demandent qu'il puisse bénéficier du temps raisonnable pour organiser sa défense. L'enquête, ouverte après des plaintes de l'association Sherpa et Transparency International, a mis à jour le patrimoine de Théodorin Obiang, notammment un immeuble avenue Foch, estimé à 107 millions d'euros et plusieurs voitures de luxe et de sport, tandis que la majorité des Équato-Guinéens vivent sous le seuil de la pauvreté.
En RDC, au moins 6 personnes tuées dans 2 attaques à l'arme blanche attribuées aux rebelles ougandais de l'Alliance des Forces démocratiques alliées, les ADF, en Ituri, dans le nord-est du pays. Il y a eu des attaques vers la frontière avec le Nord Kivu qui ont fait au moins 6 personnes tuées dans le territoire d'Irumu, a déclaré à l'AFP Pacific Keta, vice-gouverneur de la province de l'Ituri. Pour sa part, Gili Gotabo, un des responsables de la société civile du territoire d'Irumu, affirme lui que les ADF ont tué la semaine dernière 14 personnes à la machette dans les villages de Saboko et Bialé. Le territoire d'Irumu, en Ituri, est voisin de celui de Beni dans le Nord Kivu, zone d'opération des ADF, rébellion musulmane ougandaise présente dans l'est de la RDC depuis 1995, qui est accusée par les autorités congolaises et la mission de l'ONU au Congo, la MONUSCO, d'être les auteurs de massacres à répétition qui ont fait plus de 700 morts depuis octobre 2014. Au Tchad, 2016 a été une année sombre dans le domaine social. Les fonctionnaires, les retraités, les maîtres communautaires, les étudiants, bref, pratiquement toutes les couches sociales ne cachent pas leur pessimisme, nous dit notre correspondant N'Djamena, André Kodmanjinga.
La venue du Tchad en 2017, c'est un chaos total. Les enfants ne partent pas à l'école. Dans les hôpitaux, c'est fermé. Moi, je dois voir que les Tchadiens vont peut-être vider le Tchad pour aller ailleurs.
Lui, c'est Balanyanga Jonathan, coordonnateur national des maîtres communautaires. Une couche qui semble être abandonnée par le pouvoir public. Car à ce jour, les maîtres communautaires accusent 30 mois d'arriérés de subsides. Et pourtant, leur prestation n'est pas à négliger dans l'évolution du système éducatif tchadien. L'inspecteur du Trésor, Mohamed Nouri Bedou, doute du lendemain meilleur pour les Tchadiens.
Les perspectives économiques ne paraissent pas encourageantes. On prend les crédits qui ne sont pas utilisés, on les régularise avec l'argent pris en dépenses avant ordonnancement. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Si le gouvernement continue les mêmes tergiversations, 2017 va être encore plus sombre que 2016. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur, mais nous prédisons une implosion. Il faut que cette gouvernance change. Sinon, nous allons au-devant des perturbations sociales très difficiles.
Les syndicalistes, quant à eux, exigent un dialogue franc et sincère afin de booster l'économie en 2017. Barka Michel est le président de l'Union des syndicats du Tchad.
Si le gouvernement peut nous sortir de cette situation, nous avons des propositions à lui faire. Beaucoup.
Entre autres, essayer de mettre de l'ordre dans les régies financières. Les gens qui sont morts, qui continuent à être avancés et payés. Il y a des fonctionnaires qui sont là sans diplôme. Les gens qui, au nom des accords militaires, sont rentrés. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas obliger le gouvernement à couper les salaires des fonctionnaires.
2017, comme prédit le syndicaliste, s'annonce encore plus difficile pour les travailleurs tchadiens, du moins ceux qui vont oser aller en grève pour revendiquer leurs droits. À l'issue d'un conseil de cabinet tenu le 22 décembre 2016, un projet de loi portant modification de la loi numéro 008 du 9 mai 2007 portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans le secteur public a été adopté par les membres du gouvernement. gouvernement. Lequel projet de loi vient d'être voté ce 30 décembre 2016 à l'Assemblée nationale par l'ensemble des députés du parti au pouvoir. Abdelkrim Seyd Bouch, ministre de la fonction publique, salue l'acte posé par les députés de la majorité.
La modification qui a été faite essentiellement au niveau de l'article 15, les syndicats peuvent faire la grève, mais il ne faudrait pas que ça soit des grèves sèches, comme ce que le gouvernement subit actuellement. Mais à partir d'une certaine période, c'est les initiateurs de grève qui vont assumer les charges salariales, en quelque sorte. Et c'est le vœu du gouvernement de pouvoir sortir de cette crise.
Pour les députés de l'opposition, l'adoption de cette loi est une déclaration de guerre contre les syndicalistes en 2017. Parka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad, donne déjà le ton.
La liberté syndicale et le droit de grève sont dangereusement menacés. Nous devrons nous battre. Nous allons refuser la dictature. C'est une autre forme de travail forcé. Cette décision, nous allons l'attaquer au niveau du Bureau international du travail.
Contacté par VOA Afrique pour avoir une idée sur la perspective du Tchad en termes des finances en 2017, le ministre des Finances et du Budget a opposé un refus poli. Bonne et heureuse année 2017 à tous. André Koduma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Gambie, le président gambien Yahya Jammeh a accusé dans son discours de nouvel an la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de lui déclarer la guerre. Après la décision de la CEDEAO de placer des forces militaires en état d'alerte pour le cas où il refuserait de quitter le pouvoir à la fin de son mandat le 19 janvier. Yahya Jammeh, qui dit vouloir rester au pouvoir en dépit de sa défaite lors de l'élection présidentielle du 1er décembre, remportée par son rival Adama Barrow, a aussi promis de défendre la Gambie contre toute agression extérieure. Dans cette allocution diffusée par la télévision publique, le président sortant avait initialement reconnu sa défaite électorale avant de la contester quelques jours plus tard. Le Mali organisera une conférence d'entente nationale en mars 2017, a annoncé le président Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion du nouvel an. Le chef de l'État malien a souligné que l'une de ses priorités sera l'application de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 dans son pays, qui continue d'être la proie d'attaques de groupes divers. Et au Niger, au moins 2 soldats nigériens et une dizaine de djihadistes ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque de position de l'armée nigérienne par Boko Haram dans le sud-est du pays. Cela s'est produit une semaine après la reddition d'une trentaine de combattants nigériens de la secte islamique nigériane. Selon une télévision locale, l'attaque a visé samedi vers minuit des positions de l'armée à Barwa, une localité de la région de Difa, à proximité de la frontière du Nigeria. Rappelons que dans un message de vœux à la nation, samedi soir, le président nigérien Mahamadou Issoufou a lancé un appel à tous ceux qui se sont laissés entraîner dans la voie de l'égarement par Boko Haram à se ressaisir et déposer les armes. Somalie, au moins 7 morts et 17 blessés ce lundi dans l'explosion de 2 voitures piégées près de l'aéroport international de Mogadiscio, la capitale somalienne. Les précisions de Timothée Donangmaï.
La première explosion a eu lieu en milieu de journée à un poste de contrôle des forces de sécurité. Un second véhicule a alors franchi à toute vitesse le poste de contrôle avant d'exploser devant l'hôtel Peace en face de l'aéroport de Mogadiscio. Diverses sources font état de 4 civils et d'un soldat tué, de même que 2 kamikazes qui ont mené les attaques revendiquées par Al-Shabaab. C'est la seconde fois que le groupe islamiste fait usage de la tactique de 2 véhicules piégés, la première explosion visant à semer la panique et faciliter la seconde, dont le but est de faire le maximum de victimes. Plusieurs maisons se sont effondrées et l'hôtel a été sérieusement endommagé, rapporte un témoin joint par la VOA. Selon un responsable municipal de Mogadiscio, des efforts sont en cours pour retrouver 2 personnes qui pourraient être prises au piège sous les décombres.
En Turquie, 8 personnes interpellées et placées en garde à vue ce lundi à Istanbul dans le cadre de l'enquête sur l'attentat revendiqué par l'État islamique contre une discothèque huppée de la grande métropole turque. Aucun autre détail n'est disponible sur les personnes arrêtées par la police antiterroriste, mais ce sont les premières interpellations en rapport avec l'attaque dans la nuit du Nouvel An qui a fait 39 morts et dont l'auteur reste en fuite. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'État islamique indique qu'un des soldats du califat a mené l'attaque contre la boîte de nuit qui a fait plus de 20 victimes étrangères, pour la plupart originaires de pays arabes. Irak, au moins 32 personnes ont été tuées et 61 blessées ce lundi dans un attentat suicide à la voiture piégée à Bagdad, la capitale. Cet attentat, qui a visé une place d'un quartier chiite de la capitale irakienne, n'a pas été revendiqué dans les médias, mais il a eu lieu le jour de la visite à Bagdad du président français François Hollande. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.